Vous écoutez
RMC.
Mardi 30 juin,
l'info sur RMC.
Céline Kallmann est là pour vous donner les dernières informations. Vous êtes sur RMC, vous êtes sur RMC Découverte. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Fessenheim, c'est fini. Le cœur de la centrale a cessé de battre hier soir après 43 ans de service. Son démantèlement s'annonce très long, près de 20 ans. Percée des écologistes aux élections municipales, le temps est à l'action. A lancé hier Emmanuel Macron, le chef de l'État a repris presque toutes les propositions de la Convention climat. Et puis, nouvelle journée d'action des personnels soignants aujourd'hui. Dernier coup de pression avant la fin des consultations vendredi. Bienvenue à tous sur RMC. 23h30, hier soir, la centrale nucléaire alsacienne de Fessenheim a comme prévu définitivement cessé de fonctionner. Une victoire pour les antinucléaires, un crève-cœur pour certains résidents de cette ville de 2500 habitants et pour les salariés comme Patrick, contrôleur de risque pendant 36 ans à Fessenheim.
Un peu de colère, il n'y a pas de mots pour expliquer ça, c'est depuis le temps que ça traîne en longueur, voilà, c'est fait. Ah, c'est pas facile d'arrêter une machine que tu sais pertinemment qu'elle peut continuer à fonctionner, tout ça parce que le politique a décidé d'arrêter la centrale, quoi. Je pense aux collègues qui sont obligés de partir, de quitter la région pour continuer leur vie, mais ça fait un crève-cœur quand même de les voir partir, quoi. Et voilà, quoi, fierté d'avoir accompli une page d'histoire, on va dire.
Patrick Élu va partir en retraite anticipée. Alors, que va devenir maintenant le site de Fessenheim? L'évacuation du combustible hautement radioactif s'achèvera en 2023 et le démantèlement, lui, débutera 2 ans plus tard, en 2025. Une opération qui va durer de longues années. Aurélia Manoli.
C'est la phase du démantèlement qui va maintenant commencer avec une soixantaine de salariés. Et cela va durer près de 20 ans, le temps nécessaire pour déconstruire les 2 réacteurs, décontaminer et réhabiliter le site. Mais pour la suite, aucun projet n'est officiellement arrêté. EDF envisage l'installation d'un technocentre, un site pilote pour décontaminer les métaux issus du démantèlement d'autres installations nucléaires. Mais le projet est incertain. Évoqué aussi l'installation d'une usine de biocombustible qui pourrait employer jusqu'à 700 salariés dans une zone d'activité baptisée Ecorena, zone d'activité qui pourrait accueillir des entreprises dès 2022. Mais là encore, rien n'est arrêté. Les élus locaux regrettent une décision politique de l'État sans avoir prévu d'outils de remplacement.
Hasard du calendrier, l'arrêt de Fessenheim survient au lendemain de la percée écologico-municipale, mais aussi le même jour que le discours d'Emmanuel Macron face aux 150 citoyens de la Convention climat. Le chef de l'État s'est exprimé au cœur du jardin de l'Élysée. Il a repris 146 des 149 propositions. 3 mesures ont été rejetées d'emblée, notamment la limitation de 110 km/h sur les autoroutes. Au sujet du moratoire sur les zones commerciales, Emmanuel Macron a donné son feu vert, une décision qui pourrait enterrer différents projets de centre dans notre pays.
Nos concitoyens veulent retrouver une ville à l'échelle humaine où on vit mieux. Ils veulent retrouver des espaces forestiers, agricoles, naturels. Ils veulent moins de voitures. Ils ne veulent plus de nouvelles grandes surfaces en périphérie. Ils veulent retrouver des commerces de centre-ville et de l'échange humain au plus proche. Vous proposez d'éviter de nouvelles constructions qui mordent sur la nature quand des réhabilitations sont possibles. Engageons-nous. Vous préconisez d'instaurer un moratoire sur les nouvelles zones commerciales en périphérie des villes. Allons-y. Agissons.
Cette mesure, même si elle a été applaudie, vous l'avez entendu, fait débat dans les villes où des zones commerciales pourraient bientôt voir le jour. Reportage dans le Val d'Oise juste après ce journal. À retenir également dans l'actualité, un succès très net de la prime à la conversion. Entre 60 000 et 65 000 primes ont déjà été accordées, soit plus de 30% du quota. C'est ce qu'annonce le Conseil national des professions de l'automobile. Les agriculteurs devraient bientôt voir leur retraite augmenter. Le Sénat a adopté une proposition de loi communiste permettant une revalorisation de 75 à 95 5% du SMIC. La mesure n'entrera pas en vigueur avant 2022. RMC 6h04, le couple Fillon lourdement condamné hier a décidé de faire appel. 5 ans de prison dont 2 fermes pour l'ancien Premier ministre. Sa femme a écopé 3 ans avec sursis. Le tribunal correctionnel de Paris a fustigé le manquement au devoir de probité et d'exemplarité. L'emploi de Pénélope Fillon, fictif. Un jugement juste pour Farah Zawi de l'association anti-corruption, Anticor.
Le fond du dossier est qu'il y aurait eu un emploi de complaisance, un emploi qui n'a jamais existé. Pendant de nombreuses années, les sommes en cause sont considérables et c'est des sommes qui ont été détournées aux Français. On espère réellement qu'il y ait une prise de conscience dans la classe politique, qu'ils ont tout à gagner, à avoir plus de transparence vis-à-vis des citoyens, que les fonds utilisés ne sont pas des fonds personnels mais des fonds publics, donc ils appartiennent aux justiciables. La criminalité en col blanc choque moins que la criminalité dans le domaine public, mais c'est aussi grave.
Bruno Le Maire l'assure, la dette Covid ne sera pas remboursée par un nouvel impôt. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Économie hier devant l'Assemblée nationale au coup d'envoi de l'examen d'un nouveau budget de crise. Bruno Le Maire qui a également affirmé que dans 2 ans, la France aurait retrouvé sa vitalité économique. Il sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 sur RMC et BFM TV. Le message inquiétant de l'Organisation mondiale de la santé hier soir, la pandémie de Covid-19 est loin d'être finie et s'accélère. Le cap des 500 000 morts dans le monde a été franchi. Il y a plus de 10 millions de cas. Le gouvernement britannique, de son côté, annonce qu'il va durcir le confinement à Leicester en raison d'une flambée de nouveaux cas. Les commerces non essentiels qui avaient rouvert il y a 2 semaines sont à nouveau fermés à compter d'aujourd'hui et les écoles le seront après-demain. Les blouses blanches vont à nouveau défiler aujourd'hui en France, au centre des revendications. Toujours la question des salaires et le manque d'effectifs. Les 6 milliards d'euros annoncés la semaine dernière par le ministre de la Santé, Olivier Véran, sont jugés largement insuffisants par les soignants. Les médecins aussi comptent bien maintenir la pression. Florian Chevalet.
300 millions d'euros pour revaloriser les salaires, une somme décevante pour Nawel Adouiri, elle est vice-présidente de l'intersyndicale des internes.
C'est au final une centaine d'euros mensuels en brut, c'est ridicule, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on a demandé par rapport aux efforts et aux heures passées à l'hôpital. Même avec cette revalorisation-là, on sera pas payé au SMIC horaire.
Déçus, les syndicats restent tout de même à la table des négociations, ils espèrent une augmentation générale de 300 euros net par mois, seule manière, selon Magali, interne en médecine, de garder un hôpital attractif.
Il y a une fuite massive, notamment des personnels paramédicaux qui s'en vont de l'hôpital. Alors on a bien vu que pour soigner correctement les patients, il fallait du personnel à leur chevet, chose que pendant la crise du Covid, on a pu faire parce que tous les autres services tournaient au ralenti, mais que là, après cette crise, l'hôpital public reste dans un état déplorable et à la dérive.
Les annonces définitives du gouvernement sont attendues la semaine prochaine.
Nous parlions dans le journal de la poussée historique d'Europe Écologie Les Verts, dimanche lors du second tour des municipales. Autre victoire dans une ville de plus de 100 000 habitants, celle du Rassemblement National à Perpignan. Louis Alliot, député RN, a remporté la mairie avec plus de 53% des voix. Jean-Wilfried Forquès.
Ils sont nombreux à avoir voté pour l'homme plus que pour le parti.
On n'a pas voté Louis Alliot pour le Rassemblement National. On a voté Louis Alliot parce que c'est un personnage qui va prendre exemple sur la ville de Béziers. Avec M. Ménard.
Il a quand même été élu. Donc les gens vont lui faire confiance. Donc alors allons-y, on lui fait confiance et bien on fonce tous.
Sur les affiches du candidat Louis Alliot, aucune mention du Rassemblement National, mais un slogan, Perpignan, l'avenir en grand. Louis Alliot pense que s'il a été élu, c'est pour plusieurs raisons.
Il y a la personnalité, il y a tout qui joue, le contexte, l'équipe que j'ai mis en place, voilà, le projet. À un moment donné, c'est aussi la rencontre d'un homme avec un contexte et une mairie. Bon ben voilà, il fallait que ça se fasse maintenant et c'était le bon moment.
C'est officiellement vendredi que Louis Alliot deviendra le maire de Perpignan. Il sera ainsi le premier maire Rassemblement National à diriger une ville de plus de 120 000 habitants.
Reportage signé Jean-Wilfried Forquès.
Bien, oui. Est-ce que vous êtes à Perpignan? Est-ce que vous avez voté pour le Rassemblement National ou pour Louis Alliot, la personnalité de Louis Alliot, qui n'avait pas d'ailleurs le sigle Rassemblement National sur ses affiches? Je voudrais le rappeler. D'ailleurs, quand on regarde finalement, quand on regarde ces municipales, on n'a pas eu l'occasion d'en parler hier puisque nous n'étions pas là, mais ce matin nous sommes là avec vous. Alors vous réagissez. Tiens, les écolos, vous avez voté écologiste, racontez-nous. Est-ce que c'était un vote bobo, ce vote écologiste? Pourquoi? Parce que il s'est exprimé surtout dans les très grandes villes, des villes riches, souvent Strasbourg, Bordeaux, Annecy par exemple, des villes riches qui ont voté, ou Lyon, qui ont voté écolo. Pourquoi? Allez-y. Vous nous dites, parce que dans les campagnes, on a beaucoup moins voté écolo, et dans les petites villes aussi, ou à la périphérie des villes. Vous nous dites, vous appelez 3216rmc.fr pour réagir. Il y a d'autres sujets à propos de ces municipales. Finalement, il y a 3 grands perdants. D'abord, La République En Marche, qui a pris un gadin monumental. Ensuite, La France Insoumise, qui a complètement disparu, on ne sait plus où ils sont. Et puis, le Rassemblement National, qui a perdu la moitié de ses élus. Voilà. Vous réagissez, là encore, 3216rmc.fr. Et puis, l'abstention massive. Pourquoi aller voter aujourd'hui tant de Français se posent cette question-là. Vous réagissez 3216rmc.fr. Bien. Parmi les aides du gouvernement, l'État va racheter les murs de 6000 petits commerces. Écoutez bien. Bruno Le Maire va détailler cela tout à l'heure. Il est mon invité. 8h35, 9h. L'État veut racheter les murs de 6000 petits commerces. Quentin Vinet.
Oui, ce serait en fait une façon de lutter contre les locaux vides dont le nombre dépasse les 15% dans certains centres-villes. C'est le cas à Nevers, à Marmande, à Saint-Brieuc, à Mende, à Forbach, à Carcassonne aussi, selon les chiffres de l'Inspection Générale des Finances. La désertification des centres-villes a tout simplement doublé en 10 ans, la faute à la concurrence des zones commerciales. Alors ce que veut faire le gouvernement, effectivement, c'est de racheter et de rénover au moins 6000 commerces dans les 5 prochaines années, en fait des locaux qui sont vides ou qui sont sur le point de fermer, et de les proposer ensuite à des loyers modérés à des commerçants ou des artisans qui sont justement à la recherche de locaux pour s'installer. On parle à Bercy d'un tarif préférentiel en passant par les banques des territoires créées il y a 2 ans.
Alors, est-ce une bonne idée? Ce sont, comme le disait tout à l'heure Charles Magnin dans notre petite conférence d'avant matinale, ce sont des HLM commerciaux.
Bah oui, c'est ça. Oui, des HLM, commerces à loyer modéré.
Oui, des commerces à loyer modéré. Anaïs, ça va, Anaïs?
Oui, ça va très bien. Bon. C'est une bonne idée, mais une en fait, idée. Nos auditeurs ce matin nous disent sur RMC que la solution pour faire revivre les centres-villes, c'est surtout les places de parking.
Ah oui. Ça, c'est pas faux. C'est
pas sûr que les écolos soient d'accord.
Que les écolos soient d'accord. Bon, alors, autre chose. Le moratoire sur les nouvelles zones commerciales en périphérie des villes. Hier, Emmanuel Macron a répondu à l'une des propositions de la Convention citoyenne. D'ailleurs, il a repris 146 des 149 propositions, mais j'entrerai dans les détails tout à l'heure avec Bruno Le Maire parce que tout n'est pas si clair que ça. Alors, vous préconisez d'instaurer un moratoire sur les nouvelles zones commerciales en périphérie des villes. Eh bien, allons-y, a dit hier Emmanuel Macron aux citoyens de la Convention citoyenne, qui souhaitent définir un nombre d'hectares maximum pouvant être artificialisés, réduisant par 2 l'artificialisation des sols. C'est un peu compliqué parfois, même pour des citoyens. Mais, bon, c'est un peu compliqué ce qu'ils écrivent, mais bon ça veut dire quoi? Ça veut dire moratoire sur la construction de zones commerciales à périphérie des villes. Soyons simples. À Herblay, sur Seine, dans le Val d'Oise, les zones commerciales sont toujours plus présentes. Et une nouvelle pourrait bientôt voir le jour. Encore une zone commerciale. Vous en avez, vous aussi, à la périphérie de votre commune. Vous en avez trop, peut-être. Qu'en pensez-vous? Garance Munoz et Romain Poison ont rencontré les habitants d'Herblay, très attachés à quoi? À leur centre-ville.
En 20 ans de vie à Herblay, Manuel a vu le centre-ville changer de visage.
Une petite boutique de bonbons, ça n'a pas duré. Le petit quincailler qui était bien pratique aussi, pour 3 boulons, quelques vis, des écrous, tout ça, qui a disparu. Il y a beaucoup de choses qui ont fermé, beaucoup qui ont changé aussi.
Depuis, des zones commerciales ont encerclé la ville. Une nouvelle va bientôt voir le jour, inutile selon lui.
Je crois qu'il y a déjà tout. En rajouter, ça va faire fermer encore tous les petits commerces des centres-villes.
Derrière son four à pizza, depuis les années 90, Francesco a vu beaucoup de fermetures de boutiques à Herblay. Il regrette cette mise en concurrence avec les zones commerciales.
Après, il y a pizza et pizza. Évidemment, nous, les commerçants, des fois, ça nous fait peur. Pour ne pas se battre avec des grandes surfaces. Nous, on est là tous les jours, du lundi au samedi, toujours prêts à être disponibles à la clientèle. On est là, on a le code du client du quotidien de tous les jours. Les grandes surfaces sont un peu responsables de certaines faillites. De certaines boutiques.
Le moratoire d'Emmanuel Macron sur ces nouvelles zones pourrait concerner celle d'Herblay. Le maire Philippe Roulot est prêt à discuter, mais il croit en ce projet.
Je ne veux pas que ça soit du dogmatisme, que ça arrête tous les projets en cours. C'est pas bien pour l'économie, ça serait envoyer un mauvais signal au moment où des enseignes sont en difficulté de bloquer tous ces projets. Ça crée de l'emploi, encore une fois, et ça participe également au dynamisme de cette zone commerciale.
Reste à savoir si le moratoire concernera seulement les futurs projets ou ceux qui ont déjà été approuvé.
Alors, moratoire ou pas? Vous nous dites ce que vous en pensez. Allez-y, 3216rmc.fr. Philippe est dans les Côtes d'Armor à Langueux. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous.
Ça va Philippe, merci d'être avec nous le matin, on se retrouve. Hein. Ça fait du bien, vous étiez privé d'RMC ou RMC Découverte, ça vous a manqué?
Oui, effectivement, Philippe, on s'adapte.
Bon, on s'adapte, oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous êtes artisan boulanger, vous-même. Qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de ce moratoire ?
Vous parlez justement de la ville de Saint-Brieuc. Donc oui. Moi, j'ai créé ma première entreprise, enfin, que j'ai repris à Saint-Brieuc en 99, pendant 7 ans.
Oui.
La problématique, d'une municipalité à l'autre, on fait une rue en sens unique, l'autre municipalité arrive, on la remet en double sens, on met des travaux qui durent 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an. On fait des parkings, on tire sur le coup des matières premières, les peintures ne tiennent pas, faut recommencer. Et ainsi de suite. Et au final, tous les commerces sont pénalisés dans la ville, toujours dans Saint-Brieuc, dans le cas de Saint-Brieuc, quoi. Oui. Donc au final, au bout de 7 ans, on a vendu l'affaire, on a créé deux entreprises dans deux zones commerciales aux alentours à 3 km de Saint-Brieuc, et c'est avec aucun regret. Aucun regret. Malheureusement, aucun regret.
Et ce moratoire sur les zones commerciales, vous pensez qu'il y en a assez maintenant, qu'il faut les limiter ?
Après, il faut peut-être mesurer, voir un peu par rapport à la concurrence de différents commerces, quoi. Mais c'est sûr que les commerces des centres-villes, ça ne devrait pas mourir.
Oui. Mais comment faire pour que ces commerces ne meurent pas ?
Déjà, les municipalités devraient prendre quand même un peu plus contact avec l'ensemble des commerçants ou les associations de commerçants, faire en sorte au niveau des parkings et puis de travailler intelligemment main dans la main, quoi. Oui. Enfin, chacun de faire son petit truc et sa petite sauce et puis et sans regarder les conséquences ou l'impact que ça peut engranger pour les autres. Quoi.
Bien sûr. Merci Philippe.
De rien.
Et merci d'être avec nous, Philippe, dans les Côtes d'Armor. Merci, il est 6h16, vous êtes sur RMC. Nous avons une grande nouvelle à annoncer. Anaïs Castagna, il est né.
Il est né, le divin enfant.
Mathieu Rouault. Il est plus là, Mathieu Rouault.
C'est bien normal.
Vous savez pourquoi il est plus là? Oui. Parce qu'il est papa. Il est papa depuis... Hier après-midi.
17h46.
Hein, 17h46. Alors, Octave, né à 17h46, ce lundi 29 juin, c'est le petit message que Mathieu m'a envoyé. Comme Antoine de Saint-Exupéry, quand même. Vous savez ça? Comme Antoine de Saint-Exupéry. Tout le monde se porte bien. Je vous embrasse, me dit-il. Eh bien, nous l'embrassons. Nous embrassons la maman. Anne-Sophie, évidemment.
Et on la félicite parce que 4 kilos, hein, Octave. Donc,
4 kilos,
un beau
Octave.
Bébé.
C'est un beau bébé.
Et Charles, c'est de quoi il parle.
Et Charles,
hein.
Il a
eu 2 de 4 kilos.
Ouais, bon. L'accouchement, ça.
C'est le premier enfant de Mathieu Rouault, le premier. Bon, écoutez, on est très, très heureux pour toute la famille. Il est 6h17, la famille d'RMC qui s'agrandit. 6h17, vous êtes sur RMC. À tout de suite.
RMC. RMC,
6h-9h. Il est 6h20, nous sommes à Los Angeles avec Yannick Namia, qui est français, qui est installé à Los Angeles depuis 2 ans, qui a créé à Los Angeles une société de médecine préventive qui fait des prises de sang à domicile. C'est un Lyonnais qui vivait à Brest avant son départ pour les États-Unis il y a 2 ans. Et Yannick est avec nous en direct. La dernière fois, je vous ai pris trop peu de temps, Yannick. Là, je vous retrouve. Vous êtes en direct. Bonjour Yannick.
Bonjour Jean-Jacques.
Bon, ça marche parfaitement bien. Là, je vous vois, tout est parfait. Alors, que se passe-t-il à Los Angeles ? Regain de l'épidémie de Covid-19, Los Angeles a fermé à nouveau ses bars ?
Oui, Los Angeles a refermé ses bars. C'est vrai qu'ils avaient réouvert il y a 2 semaines, déjà avec des capacités qui étaient, on va dire, diminuées de moitié. Le week-end dernier, hier et avant-hier, il y avait peut-être un tiers de la fréquentation habituelle. Et là, aujourd'hui, le gouverneur a annoncé que les bars allaient refermer dans beaucoup de comtés de Californie. Et surtout, moi, je pense que l'annonce principale, c'est qu'il a annoncé que les plages et la plupart des endroits allaient refermer pour le 4 juillet. Le 4 juillet, c'est la fête nationale aux US. C'est un gros événement. Hein. C'est beaucoup plus gros que le 14 juillet chez nous. Tout le monde se réunit, il y a des fêtes entre amis, en famille. Là, les plages vont être fermées, alors que c'était quand même l'endroit le plus fréquenté de Los Angeles. Donc ça va être une ambiance assez particulière cette année. Ouais.
Oui, comment réagit la population, Yannick ?
J'ai l'impression... Alors ça, c'était beaucoup détendu, il y a 2 semaines. Depuis quelques jours, on sent que ça se retend. On sent qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont se faire tester, parce qu'ils ont peur. Les gens portent beaucoup plus le masque dans la rue, dans les salles de sport. Et en général, on a une situation qui se tend, alors sachant qu'elle était déjà tendue, puisque On a enchaîné quasiment jour pour jour. À la fin du déconfinement, on a enchaîné avec les émeutes. Et maintenant, les émeutes sont terminées et on enchaîne avec un nouveau pic de cas. Donc, il y a une ambiance assez bizarre et le moral n'est pas au beau fixe.
Est-ce que, comme en France, on débat sur le manque de masques, ce qu'on a fait en France, sur le manque de tests, sur une forme d'incurie des responsables à la fois gouvernementaux, fédéraux et puis des responsables de l'État ?
Non, alors, il faut voir qu'aux États-Unis, on écoute pas beaucoup le président Trump, on écoute le gouverneur Newsom qui fait un peu autorité, qui fait autorité en Californie, c'est le gouverneur, et on écoute aussi beaucoup le maire de Los Angeles, ces deux hommes qui parlent beaucoup, qui sont très respectés, et c'est eux qui donnent les directives et elles sont écoutées. Et les Américains en général, il faut vous dire aussi, ils sont quand même très respectueux des règles. Dans leur grande majorité, évidemment. Après, vous allez voir des gens qui vont manifester pour leur liberté, mais c'est quand même une très faible minorité, ça.
Une très faible minorité, oui. Yannick, vous avez créé à Los Angeles une société de médecine préventive qui fait des prises de sang à domicile. J'imagine que vous êtes sollicité dans le cadre de ce Covid-19.
Oui, bien sûr. On fait des tests à domicile, donc on va envoyer des kits de prélèvement. Nos clients vont prélever quelques gouttes de sang, nous les renvoyer et on va leur dire s'ils sont en bonne santé et s'ils ont des risques de développer des maladies. Donc on fait des focus sur les défenses immunitaires en ce moment, évidemment. Donc on vend à la fois aux US et dans toute l'Europe. Donc c'est vrai qu'on est pas mal sollicité en ce moment, effectivement. Donc on a un produit qui répond à un besoin actuel, en plus des tests pour le Covid-19 qu'on fait aussi, les tests anticorps.
Quant à Vinet, vous avez une question à poser à Yannick ?
Moi, j'ai deux informations parce que l'on parle des États-Unis. Il se passe la même chose en Angleterre. Leicester, la région de Leicester, qui va être la première à reconfiner après une flambée de cas. Par contre, en Allemagne, on déconfine une zone qui avait été reconfinée après une flambée là-bas du nombre de cas.
Oui, Yannick, vous aviez été confiné, déconfiné et vous êtes en grande partie reconfiné. C'est ça qui est difficile à vivre.
Ouais, c'est difficile à vivre et c'est surtout qu'on est reconfiné par défaut en fait, hein, parce que la plupart des magasins sont encore fermés. Donc même si on voulait sortir, acheter des vêtements, hein, on peut pas essayer les vêtements, on doit les acheter, les essayer chez nous, les retourner. Les bars sont bon, il y a pas une atmosphère festive. Quand on va dans un bar ou un restaurant, c'est pour l'atmosphère. En plus de la nourriture, évidemment, et là, il n'y a pas ça, donc on est reconfiné sans vraiment l'être, ouais, effectivement. Oui.
Est-ce qu'on peut voyager ? Est-ce qu'on peut voyager, quitter la Californie, toujours, hein ?
Ouais, on peut voyager dans les États, les vols sont ouverts, après, ils sont assez chers. J'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voyagent. À l'aéroport de Los Angeles, c'est assez désertique d'habitude. Il faut une heure pour faire le tour de c'est un cercle, l'aéroport de Los Angeles. Il faut une heure pour faire le tour. Là, il n'y a personne. Donc, vraiment, les vols, il n'y a personne.
Bien, merci beaucoup. Yannick Namia, français installé et auditeur d'RMC. Merci vraiment d'être avec nous, installé à Los Angeles depuis 2 ans. Merci Yannick. Et quand vous passez par Paris, venez nous voir. Merci. Salut Yannick. Salut. Il est quelle heure ? Il est 6h26. C'est l'heure de Charlemagne tous les matins. 3 histoires et 3 images. Charles, nous commençons avec les histoires insolites des élections municipales.
Ben oui, à chaque élection, ces petites histoires. Par exemple, sachez qu'à Aumont, dans le Nord, Stéphane Villemotte a battu son père, Joël, qui était maire depuis 1989. Le fils a devancé son père de 220 voix dimanche soir, ce qui promet des repas de famille animés pendant les prochaines semaines. Dans plusieurs communes, on a aussi constaté dimanche une égalité parfaite entre les listes présentées au second tour, exactement le même nombre de voix. C'était le cas à Chassieux dans le Rhône, à Saint-Sulpice et Quémerac en Gironde. Alors que fait-on dans ces cas-là ? Eh bien, privilège de l'âge, c'est la liste avec la moyenne d'âge la plus élevée qui l'emporte. On peut aussi saluer l'élection d'un arbitre de Ligue 1, Anthony Gauthier, élu maire de Bailleul dans le Nord. En revanche, Claude, le héros de Koh-Lanta, n'a pas été élu à Rennes, même si un petit malin s'est amusé à glisser un bulletin à son effigie dans l'urne. Enfin, dans l'Yonne, à Torigny-sur-Oreuse, un retraité a refusé de porter le masque dans le bureau de vote. Foudrage, il a fini par casser l'urne avant d'être placé en garde à vue.
Aux États-Unis, arme à la main, un
couple menace des manifestants.
Oui, c'est la vidéo qui fait du bruit ces dernières heures aux États-Unis. La scène se déroule dans les rues de Saint-Louis, dans le Missouri. Des manifestants défilent dans un quartier huppé, le quartier où vit la maire de la ville. C'est sa maison qu'ils visent. Ils veulent absolument défiler et manifester devant le domicile de Madame le maire. Mais alors qu'ils passent devant une grande demeure, un couple sort, arme à la main. Le mari, vêtu d'un polo rose et d'un pantalon à pinces, a un fusil d'assaut entre les mains. Sa femme brandit un pistolet. Les manifestants restent calmes, ne répondent pas à la provocation, poursuivent leur chemin. Le mari expliquera ensuite qu'il a eu, je cite, peur en voyant arriver cette foule haineuse, peur qu'il brûle sa maison, peur pour sa vie. Donald Trump a retweeté la vidéo cette nuit sans la commenter, mais certains de ses proches la relaient en prenant la défense du couple armé et en prévenant les électeurs. C'est l'avenir qui vous attend sous une éventuelle présidence de Joe Biden, le candidat démocrate à la Maison-Blanche.
Je veux dire à cette dame qui brandit son revolver qu'elle manie un peu maladroitement, me semble-t-il, pour pas trop qu'elle s'approche de son mari, parce que le revolver pourrait partir tout seul.
Elle n'a pas l'air très à
l'aise
avec son revolver.
Tuer, non, elle n'est pas très à l'aise. Elle pourrait tuer son mari.
Vous remarquerez qu'ils sont pieds nus tous les deux, mais armés.
Ah oui, non. Fusil d'assaut pour lui.
Fusil d'assaut avant de prendre ses chaussures pour sortir de chez soi.
L'histoire du jour, dans le Gard, les gendarmes ont enfin résolu l'affaire de la pollution des cascades des Aiguières.
Oui, c'est du côté de Bouquet. Un magnifique site classé, une zone protégée.
Je vous l'ai conseillé, Jean-Jacques.
Oui, cette rivière a été victime d'une mystérieuse pollution pendant le confinement. À l'époque, les gendarmes ne comprennent pas d'où vient cette étrange substance qui pollue la rivière. Après des semaines de surveillance des réseaux sociaux, ils tombent sur la vidéo d'un homme très fier de déverser du liquide vaisselle dans les cascades. Rapidement interpellé, l'individu explique aux gendarmes qu'il est bien l'auteur de la vidéo, qu'il a bien versé un demi-litre de liquide vaisselle dans la rivière afin, je cite, de faire comme dans un jacuzzi. Il a filmé puis diffusé la vidéo sur les réseaux pensant, je cite encore, que ce serait cool. Eh bien, il s'en expliquera au mois de septembre devant le tribunal d'Alès. On verra si le tribunal juge cela très cool.
Il est 6h29, la machine à café avec vous, Quentin Binet, 32-16, la touche 5 pour la gagner, la machine et les capsules qui vont avec.
Et puis aussi le mot matin par SMS au 7-32-16.
Bien. Anaïs Castagnac, qu'allons-nous faire?
Après le journal, on va parler de la clim avec les fortes chaleurs. Beaucoup l'ont remise, mais est-ce que ça peut avoir une influence sur la diffusion du virus? Quelles sont les précautions à prendre? Saurez-vous avec Daniel Camus, infectiologue à l'Institut Pasteur de Lille.
Il est 6h30, juste Anne-Sophie Balvire est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. François Fillon se prend une gifle. L'ancien Premier ministre est condamné dans l'affaire des emplois fictifs de sa femme. 5 ans de prison, dont 2 fermes. Le couple fait appel. Le bouton arrêt actionné à Fessenheim, le deuxième réacteur a été débranché. La plus vieille centrale nucléaire française ne fonctionne plus et ne fonctionnera plus. Le démantèlement va durer au moins 20 ans. Et puis Emmanuel Macron allume le bouton vert de son quinquennat. Le président lance un plan environnement. Il reprend les propositions de la Convention pour le climat. RMC 6h31. La justice n'a donc trouvé aucune circonstance atténuante à François Fillon dans l'affaire des emplois fictifs. L'ancien Premier ministre est condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, 375 000 euros d'amende, 10 ans d'inéligibilité, 3 ans de prison avec sursis, 375 000 euros d'amende et 2 ans d'inéligibilité pour son épouse Pénélope. Et il y aura un nouveau procès. Le couple fait appel. Gladys Lafitte, vous étiez à la dernière journée d'audience pour RMC.
Dès les années 80, François Fillon a utilisé son crédit collaborateur comme un complément de rémunération au maximum de ce qui était possible, assène le tribunal. Au cœur de ce système, Pénélope Fillon, qui n'a jamais effectué de réelles prestations de travail au-delà d'un soutien politique à son mari. En tout cas, rien qui ne peut justifier une rémunération publique, déroule la présidente. Aucune réaction des époux, impassible, elle masquée, lui regard au sol, même lorsque la magistrate dénonce les manquements de l'ancien Premier ministre à son devoir de probité et d'exemplarité, faisant prévaloir son intérêt personnel sur l'intérêt commun. Un jugement extrêmement sévère selon les avocats de la défense qui font appel de la décision. Les peines de prison sont donc suspendues car aucun mandat de dépôt n'a été prononcé. Les époux n'auront pas non plus à payer pour l'instant leur amende ni à rembourser les plus d'1 million d'euros à l'Assemblée nationale, total des salaires versés à Pénélope Fillon.
L'avocat de François Fillon, maître Antonin Lévy, sera votre invité, Jean-Jacques, à 7h40 sur RMC. Hier soir, à 23h, c'est la centrale de Fessenheim qui a définitivement cessé de fonctionner. La plus ancienne de France, 43 ans de service, celle qui fait parler d'elle depuis des années. Le second réacteur a été débranché du réseau électrique. Le démantèlement devrait durer jusqu'à 2040 au moins. Une victoire pour les antinucléaires, mais un crève-cœur pour les habitants et les salariés, reconnaît inquiet le maire de la ville, Claude Brender.
Le problème numéro un, c'est qu'on perd 1000 emplois sur le bassin d'emploi de Fessenheim. Et donc, ces 1000 emplois, aujourd'hui, ne sont remplacés par rien. Et c'est ça qu'on déplore. Et c'est ça, là, où on a été abandonné, totalement. Le gouvernement n'a pas mis les moyens qu'il faut pour que cette fermeture se passe bien. C'est pas satisfaisant. Notre population, elle mérite pas ça non plus. On a accepté une centrale nucléaire sur ce territoire pour participer aussi à l'indépendance énergétique de la France. Et donc, aujourd'hui, il y a un minimum de respect et de considération à avoir pour ce territoire.
Emmanuel Macron annonce la nouvelle direction de son quinquennat. Son quinquennat sera vert. Après la poussée écologiste au municipal, le chef de l'État se dit prêt à reprendre la quasi-intégralité des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Fin de l'artificialisation des sols, interdiction des passoires thermiques, moratoire sur les nouvelles zones commerciales en périphérie des villes et une plus grande vigilance sur les accords de libre-échange. Paul Barcelone.
Voilà qui devrait soulager le monde agricole. Emmanuel Macron se dit prêt à abandonner le CETA et le Mercosur, deux accords de libre-échange avec le Canada et des pays d'Amérique du Sud.
Aucun accord commercial avec des États qui ne respecteraient l'accord de Paris. Et c'est pour cela que sur le Mercosur, j'ai stoppé net les négociations. Sur le CETA, je n'ai aucun tabou.
Autre mesure, qu'en 2030, tous les Français mangent au moins 20% de fruits, légumes et céréales bio. Mais cet objectif est intenable, selon Lux Messard, vice-président de la FNSEA et agriculteur dans l'Oise.
On ne passe pas du bio du jour au lendemain. Toutes les terres françaises ne sont pas adaptées à pouvoir passer en agriculture biologique. Ces conventions et ces bilans auraient tendance à toujours augmenter le fossé entre les gens des champs et les gens des villes. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est du dialogue et puis d'un vrai soutien de la part de tous les Français.
Circuit court, interdiction des pesticides, les 146 propositions retenues par Emmanuel Macron promettent de changer les modes de consommation, mais par là aussi le visage de l'agriculture française.
Et plusieurs de ces propositions seront au menu d'un conseil de défense écologique qui se tiendra d'ici fin juillet. Édouard Philippe sera-t-il encore Premier ministre? Probable remaniement en vue, alors qu'Emmanuel Macron doit continuer à préciser son intention de se réinventer pour les deux dernières années de son mandat, Jérémy Trottin.
Il est politiquement très fort, confie un ministre. Depuis la victoire d'Édouard Philippe au Havre, rares sont les membres du gouvernement à encore le critiquer ouvertement. Sans réserve de voix, il arrive à gagner 15 points entre les deux tours. Il sera très difficile pour Macron de s'en passer, prédit un secrétaire d'État. D'autant que sa cote de popularité est en hausse et même chez les sympathisants socialistes, précise un ministre venu de la gauche. Cela suffira-t-il à faire d'Édouard Philippe le premier ministre de la deuxième partie du mandat? Son entourage y croit. À aucun moment, le président n'a parlé de rupture. La question est plutôt de savoir si Édouard Philippe veut et peut porter le virage écologique souhaité par le chef de l'État pour relancer son quinquennat. Certaines voix dans la majorité en doutent. En réalité, le Premier ministre ne croit pas en l'écologie. Si Macron est cohérent, il ne pourra pas le garder.
La pandémie de Covid-19 est loin d'être finie. Elle s'accélère même dans le monde. Avertissement de l'OMS. Le virus continue de faire des ravages aux États-Unis. Il semble redémarrer en Chine. Au Royaume-Uni, le confinement se durcit par endroits. La France a enregistré 35 nouveaux morts dans les hôpitaux depuis vendredi. Nombre total des décès, 29 813. Une campagne de tests de grande ampleur a été lancée hier en Île-de-France, notamment en Seine-Saint-Denis et dans le Val-d'Oise. Benjamin Pelsi, les habitants ont reçu des bons de l'assurance maladie. 1 300 000 personnes peuvent se faire dépister gratuitement.
Les 32 communes concernées par ce dépistage à grande échelle ont été sélectionnées sur trois critères. Leur taux de contamination est supérieur à la moyenne nationale. L'accès au dépistage y est plus restreint. Et dernier facteur, leur situation économique et sociale. Le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France appuie sur ce point. L'épidémie a plus fortement touché les territoires avec des populations pauvres. Dans la liste figurent notamment Argenteuil et Nanterre. Cette campagne de dépistage vise à détecter des foyers épidémiques dormants, des zones où le coronavirus continue de circuler, mais entre personnes asymptomatiques.
Les courses, Anaïs, c'est à Vincennes.
À 18h30, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Favori numéro 16, Galilea Monet. Outsider numéro 15, J'aime Debusset.
Le commerce de centre-ville, le moratoire sur les zones commerciales annoncé hier par Emmanuel Macron. J'en reparlerai avec Bruno Le Maire qui sera mon invité tout à l'heure. Gilles a réagi. Gilles est dans l'Isère. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Vous êtes bouché en centre-ville. Hein, Gilles?
C'est toute l'équipe, on vous écoute tous les matins en montant en rayon.
Bon, vous nous écoutez sur RMC, donc vous ne regardez pas RMC Découverte.
Non.
Vous étiez privé d'RMC pendant 2-3 jours, ça va mieux maintenant. Gilles, on est heureux d'ailleurs, vous êtes dans l'Isère à Montalieu-Versieux.
Tout à fait.
Bon, vous êtes bouché.
Oui, on est bouché, et puis justement, par rapport à ça... Je voulais revenir, en fait, ça serait bien qu'on revienne à une économie, je veux dire, plus centrale, plus centre-village.
Oui.
Parce que c'est vrai que là, on a vu avec le Covid-19, les gens revenir vers les petits commerces. Parce que, déjà, ils ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient dans les grandes surfaces. Et puis, on a eu la chance qu'en mars et avril, il ait fait très beau. Donc, on a pu, nous, comme on fabrique, on a pu fabriquer tous ces produits, nos saucisses, nos brochettes, etc. Ils ont pu découvrir les produits, produits de qualité, en fait. Hein. Oui. Et ils se sont aperçus, en fait, que c'était pas si mal que ça, les petits bouchers. Et puis, qu'au niveau prix, on s'y retrouve aussi. On n'était pas aussi cher qu'on le dit, en fait. Hein.
Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de différences qu'on ne le dit, hein. Surtout dans le domaine de la boucherie, de la charcuterie. Gilles, vous fabriquez votre boucherie, votre viande, vous la fabriquez pas, mais vous la découpez sur place.
Voilà.
Vous fabriquez votre charcuterie, hein, Gilles. Les commerces de centre-ville, comment ? Alors c'est vrai qu'à l'occasion du Covid-19, on a redécouvert un peu les commerces de centre-ville, mais comment pérenniser maintenant ? Comment garder cette appétence, comment attirer ces clients qui prennent leur voiture et qui vont à la périphérie des villes?
Je pense que c'est d'abord par rapport aux municipalités, hein, c'est mettre les moyens pour que le commerce...
C'est quoi, quel moyen? Qu'est-ce qui serait utile?
Qu'est-ce qui serait utile, c'est de mettre des zones, des petites surfaces à disposition à un prix abordable. Je pense que ça serait la première des choses.
Oui.
Sans les candidats, parce que bon, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein. Donc, si c'est accessible, je pense qu'on aurait plus de gens.
Avec un loyer accessible, avec vous, il y aurait plus de petits commerces ouverts moins fermerés. Vous avez vu l'idée du gouvernement de racheter 6 000 commerces pour les louer ensuite à des prix vraiment très bas. C'est une bonne idée, ça.
Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Bah, d'ailleurs, si on regarde bien les grandes surfaces, bon, je ne vais pas citer le nom, hein, on essaie de mettre des plus petites unités dans les centres-villes, parce qu'on sait très bien qu'il y a encore, de la matière, il y a encore de quoi faire. Donc, s'ils essayent aussi de nous copier, parce qu'en fait, dans mon passé, j'ai roulé ma bosse, hein, j'ai travaillé en grande surface, j'ai travaillé un peu partout en intérim, donc j'ai pu voir un peu toutes les facettes du métier, et je dirais que j'ai essayé aussi dans les grandes surfaces, à certains postes, j'étais bouché, de développer une certaine forme de boucherie traditionnelle, on va dire. Hein.
Oui.
Des carcasses, alors c'est vrai que ça coûtait un peu plus cher, mais tout de suite on m'a dit non, attendez, Gilles, en bas de la marge, en fin de mois, c'est pas ce qu'on vous a demandé, donc je préférais qu'on revienne sur ce qu'on faisait. Donc sous vide, etc. Donc c'est dommage, parce que bon, il y a encore matière à faire, il y a encore matière à bien manger, et je pense que le jour où on disparaîtra, nous, les petits bouchers, on mangera ce qu'on nous donne,
mais
en fait.
Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que vous pourriez disparaître ? Pourquoi ? Non ? J'y crois pas, moi.
On a encore le plan de jeu à tirer. Je pense que ça se passe encore bien pour les gens.
Bien sûr.
Les gens qui veulent travailler. Il faut se différencier des grandes surfaces. Est-ce que nous, comme on fabrique, on peut faire des choses que eux ne peuvent pas faire?
Mais évidemment.
Là, on a eu la chance, comme je disais, au mois de mars, en grande surface, les gens commandent sur des cadenciers. Donc, en mars et avril, l'assortiment de tout ce qui était brochette, merguez était fermé. Donc, il n'avait rien à disposition de la clientèle. Nous, on a la chance de fabriquer, donc on a pu envoyer toute l'artillerie. Hein. On avait un rayon avec 12 sortes de brochettes différentes, 10 sortes de saucisses. Les gens ont dit, tiens, mais c'est super, ça, dis donc. Et ils ont redécouvert le petit boucher, en fait. Et on a conservé une partie de la clientèle, quand même, il faut le dire.
Et en plus, ils ont mangé un bon produit, ils se sont régalés. Donc, ça fait beaucoup, quand même.
Justement, d'une fille, une jeune fille, qui m'a dit, vous savez, mon copain, quand il va en grande surface, il achète 6 merguez et il mange les 6 merguez. Bah, dis donc, chez vous, quand on vient chez vous, il en mange 3-4, et voilà, et c'est bon, et puis ça lui suffit. Et si on rapporte le rapport qualité-prix, dans la plaque, quoi, en fait.
Oui, évidemment. Bien, merci Gilles.
De rien.
C'est sympa d'être avec nous
et
le matin.
Et bien, merci.
Et salut à tous les commerçants, à tous les bouchers, tous les boulangers qui sont avec nous le matin. Il est 6h42. Allez, un peu de pub. Ensuite, la climatisation. Est-ce que la climatisation, le sait-on vraiment aujourd'hui, est une menace je parle du coronavirus, évidemment, alors que l'été s'installe. Le professeur Daniel Camus, qui est infectiologue à l'Institut Pasteur de Lille, est avec nous dans 2 minutes.
RMC.
RMC, 6h-9h.
Bourdin Direct.
Bien, avant de parler de la climatisation, Quentin Vinet, les jeux de hasard. Est-ce que vous jouez à la loterie au Paris Sportif? Vous jouez, vous, Anaïs?
Au loto,
Paris Sportif,
pas.
Non,
pas
au loto, non.
Au loto, mais j'ai jamais gagné.
Ah oui, moi non plus. J'ai dû jouer 10 fois, j'ai jamais gagné non plus. Bon, une fois, j'ai gagné 2 euros, je crois.
Ah,
les jeux d'argent et de hasard attirent de moins en moins de Français, Quentin Vinet, mais les Français qui jouent plus.
Oui, voilà, c'est ça, en fait. 47% des Français jouaient au loto, au poker, au jeu à gratter l'an dernier contre 56% il y a 5 ans, selon une enquête menée par plusieurs organismes, dont Santé publique France. Vous voyez que ça baisse. Mais par contre, c'est vrai que le profil des joueurs ne change pas. Plutôt des hommes de 25 à 54 ans, des actifs, d'un niveau d'éducation un petit peu moins élevé que ceux qui ne jouent pas, mais avec un certain revenu, parce qu'en moyenne, eh bien 10% du budget loisirs passe dans les jeux, surtout les lotos. En réalité, hein, c'est 80 à 90% des joueurs. Le seul secteur en fait qui ne connaît pas de baisse depuis 5 ans, c'est celui des paris sportifs en forte progression, avec plus 60% de croissance.
Faut-il interdire la publicité, d'ailleurs, pour les paris sportifs? C'est aussi une bonne question à poser, non? Bah, je sais pas, non, puisqu'elle est interdite.
Vous croyez que ça incite les jeunes à se mettre?
Je ne sais pas, je pose la question. Bon, allez, 6h46. Vous êtes sur RMC, RMC Découverte. Daniel Camus, le professeur Daniel Camus, infectiologue à l'Institut Pasteur de Lille, est en direct avec nous. Professeur Camus, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être là ce matin. Vous êtes infectiologue. Parlons de la climatisation et du coronavirus. On sait que le virus circule encore. Je dis toujours à bas bruit. Hein, il est là, moins virulent, si je puis dire, mais toujours là. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la climatisation? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être tranquille, puisque l'été est là aussi? Si la clim est pourvue d'un bon filtre, on n'a pas à s'inquiéter, professeur?
On n'a pas à s'inquiéter. Bien différencier ce qui est le brassage d'air, ce qui est la ventilation et ce qui est la climatisation. Il ne faut pas faire d'erreur parce que, bien entendu, on peut créer des peurs absolument injustifiées. Alors, la climatisation, c'est un système qui prend, qui reprend l'air dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, qui le passe dans une cartouche. Cette cartouche refroidit l'air et le redistribue dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Donc si dans cette pièce, il y a quelqu'un qui est porteur de virus ou c'est du virus restant, eh bien le virus va recirculer et peut infecter tout le monde. Donc la seule méthode à ce moment-là, c'est d'être certain que le système de climatisation soit équipé d'un filtre. Et il y a des filtres tout à fait spéciaux et faits pour ça, qui s'appellent les filtres de normes HEP. Et qui vous garantissent que votre appareil de climatisation ne risque pas de vous contaminer. Or, ce filtre-là, or ce type de filtre-là, oui, il y a un risque à utiliser une climatisation en termes, de, bien entendu, de contamination par le Covid-19.
Donc, il faut équiper son climatisateur de ce filtre. Et les ventilateurs et brumisateurs?
Alors, les ventilateurs, dans une pièce où il y a plusieurs personnes surtout, il ne faut pas l'utiliser. Parce que s'il y a des particules virales qui sont en suspension, elles vont être redistribuées dans toute la pièce et tout le monde va en prendre plein la figure. Hein.
Oui.
Donc, ne pas utiliser les ventilateurs, surtout pas faire ça.
Oui, pas de ventilateur, brumisateur.
C'est un peu différent parce que le brumisateur fait un petit nuage d'eau et ces gouttelettes d'eau vont en fait précipiter par terre les particules virales, s'il y en a. Donc, à la limite, c'est pas plus mal. Mais il faut que le brumisateur soit dirigé du haut vers le bas. Il faut pas que ce soit dans l'autre sens. Donc, attention aux jets d'eau d'extérieur, par exemple, qui pourraient être plutôt dans le sens vertical.
Professeur Camus, on va rappeler, je vous entends parfois un peu mal, ça coupe, mais on va rappeler que la meilleure solution, c'est d'aérer. Hein. Surtout aérer la nuit, aérer le matin. Bon, la journée, il fait chaud, on ferme les volets, mais aérer la nuit, le matin, le soir.
Vous savez, absolument raison, et également laisser fonctionner chez soi les systèmes de ventilation. Vous savez, les systèmes VMC, on connaît tous là, ces bouches qui se trouvent chez nous dans nos cuisines, dans les toilettes. Oui. Il faut absolument les laisser fonctionner. Ça, c'est absolument indispensable.
Oui, c'est indispensable parce que finalement, ces systèmes brassent l'air.
Non, ils brassent pas l'air, ils captent de l'air à l'extérieur. Et ils le font recirculer dans votre maison, votre appartement. Ça évite surtout les moisissures. Donc ça, c'est important quand même de les conserver. Et comme le, la capture d'air se fait à l'extérieur, dans l'air extérieur, il n'y a pas de virus. Donc il n'y a aucun risque à faire fonctionner sa ventilation. Au contraire, faites fonctionner vos ventilations.
Bien, ben, aérer. Merci, professeur Camus, infectiologue à l'Institut Pasteur de Lille, pour passer un bon été. Il est 6h51. Anaïs, qu'allons-nous faire avec Anthony Morel?
Alors. Ils imitent parfaitement le bruit et le comportement. C'est dauphins, c'est vrai.
Vous ce sont des dauphins.
Exactement, ce sont des vrais dauphins, mais il y a aussi des faux dauphins, des dauphins robots qui imitent parfaitement les dauphins et qui permettraient de les remplacer dans les parcs aquatiques, de relâcher les vrais dauphins. Anthony Morel nous en parle dans un instant. Tout de suite.
RMC. RMC.
C'est déjà demain.
C'est déjà demain avec Anthony Morel et ses dauphins.
J'imite super bien le dauphin.
Ouais. Non, ça c'est pas vous.
Ah bon?
Allez-y.
Non, c'est pas possible.
Allez-y, faites pas. Allez-y, le dauphin.
Non, ça marche comment? Ça fait beaucoup moins.
Il est bon au bruitage d'habitude.
Ouais, c'est vrai, mais le dauphin, c'est compliqué quand même, faut être honnête.
Oui, c'est compliqué. Bon. Des robots, mais. Comme vous êtes adepte de robots, que vous nous trouvez des robots pour tout, vous avez même trouvé des robots dauphins.
Ouais, pour remplacer les, bah, les vrais dauphins dans les parcs aquatiques. Vous savez, vous avez tous débat sur la captivité des animaux, ça c'est pas bon pour les dauphins, les orques, d'être dans des bassins quand on va dans les parcs aquatiques. Eh bien, il y a une société américaine qui a eu l'idée de remplacer ces dauphins par des dauphins robotiques, mais des dauphins plus vrais que nature. Je pense que si je vous avais pas dit, pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, que ce que vous voyez là, c'est un robot, ça n'est pas un dauphin, mais c'est un robot, est-ce que vous auriez fait la différence? Franchement, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'en termes de réalisme...
Enfin, je le sais, si je le sais.
Vous
le
savez, oui.
En arrivant au parc, je sais que c'est un robot.
Et je vous le dis
pas. Vous croyez que j'ai envie d'aller nager avec un robot?
Mais pourquoi pas? Mais pour les enfants, vous créez une forme d'interaction. Bah si, parce que là, pour le coup, vous avez tout.
Mais vous n'avez pas des scrupules, vous, Jean-Jacques, quand vous allez au parc et que vous voyez tous ces animaux en captivité? Ah bah oui, bah voilà. Mais pour les enfants, c'est génial, c'est absolument génial.
Vous avez vu là comment il accélère, il peut faire des demi-tours.
Très bien.
Agir avec les êtres humains.
Les visiteurs étaient au courant quand même.
Là, les visiteurs sont au courant, évidemment. Non, oui. Et puis on peut imaginer toutes sortes de nouvelles interactions, parce que là, vous voyez des dauphins. Mais imaginez des robots requins blancs. Vous pourriez vous faire une petite frayeur, nager au milieu des requins blancs, même robotiques. Enfin, je pense que là, vous pouvez vous filer des petits coups de frousse, ça peut être très sympa. Ouais. Donc il y a des nouvelles.
Enfin, si vous savez que c'est un robot, vous avez
peur de rien.
Vous avez peur de tout.
Alors. Oh, vous rigolez ou quoi?
Moi, je me dirais, on sait jamais. Franchement.
J'ai vu les dents de la mer. Je vois très bien comment ça peut se passer.
Ouais, d'accord. Bon. D'accord, les avancées technologiques sont telles qu'on arrive à un degré de réalisme absolument incroyable avec des applications étonnantes. Des chiens de berger robotiques, par exemple.
Exactement.
Des chiens de berger robotiques.
Vous vous souvenez du robot Spot? Oui. C'est le robot chien, je vous en ai déjà parlé. C'est un quadrupède absolument incroyable. Et la dernière application.
Celui-là fait un petit peu peur.
Et là, la dernière application, eh bien, c'est qui va servir de chien de berger. Et les moutons, ils croient dur comme fer. Donc il a été programmé pour gérer un troupeau de moutons. Et donc, les moutons suivent le chien à la trace. Même chose pour des robots oiseaux. On va reproduire des oiseaux de proie, des faucons, des aigles avec un niveau
ça,
de réalisme incroyable.
Tout.
Et ça, on va s'en servir comme épouvantail.
Mais évidemment.
Par exemple, dans l'agriculture et puis sur les aéroports aussi, pour éviter que les vrais oiseaux n'entrent dans les réacteurs des avions. Donc voilà tout un tas d'applications pour ces animatroniques, comme on appelle ça, qui sont d'un réalisme, dont le réalisme augmente année après année.
Et certains cirques remplacent leurs tigres, leurs éléphants par des hologrammes.
Oui, alors il y a de plus en plus de pays qui interdisent l'utilisation d'animaux sauvages dans les cirques, et l'une des solutions, alors c'est un cirque allemand qui a eu cette idée, c'est de remplacer ces animaux par des reproductions numériques. Ce sont des projections 3D extrêmement réalistes. On a presque l'impression qu'on pourrait les toucher, ces éléphants. Alors on a le carrousel des chevaux. Alors c'est pas, on voit que c'est une illusion, franchement, mais ça ajoute, j'allais dire, un côté presque poétique au spectacle. C'est plus exactement la même chose, mais c'est un spectacle qui, je
trouve, est assez intéressant. C'est le même principe, hein, on a tous vu les hologrammes de chanteurs disparus, de Claude François, Michael Jackson,
même
etc.
Même de politique. Hein.
De politique, oui, de politique. Jean-Luc Mélenchon aussi, qui avait beaucoup fait parler avec ses hologrammes. Et ben voilà, là, il y a des éléphants. Voilà, c'est pas les éléphants du Parti Socialiste, ouais. c'est les éléphants du cirque. Ouais.
Bon, il est 6h57. Merci, Anthony. Merci. 6h57, je vais prendre Marine. Bonjour, Marine.
Bonjour Jean-Jacques.
Vous êtes en Côte d'Or, à Mirebeau-sur-Bèze.
Mirebeau-sur-Bèze, c'est ça.
Bon, vous êtes directrice d'une école.
Oui. Hein
Marine, ça y est, l'année se termine là.
Oui, après tant de complications, ben oui. Ça se termine.
Oui. Oui, ça se passe bien ces derniers jours.
Très bien.
Hein, vraiment, Marine, maintenant.
Oui, bon. Contente de revoir les élèves et de pouvoir leur dire au revoir dans de bonnes circonstances.
Bon, Marine, vous regardez la télé, vous écoutez la radio le matin?
Alors, je regarde la télé avant de partir, ensuite je vous écoute dans la voiture.
Bon, Marine, on est heureux de vous retrouver dans tous les cas, après ces 2-3 jours d'absence, on est heureux de vous retrouver. Marine, vous avez gagné votre machine à café, les capsules qui vont avec.
Merci beaucoup Jean-Jacques, merci à toute l'équipe.
Et on vous embrasse, toute l'équipe vous embrasse Marine. Et passez
merci
une très belle
beaucoup.
Journée.
Vous aussi, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.